Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Il y a 2 ans, l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, décapité par un homme radicalisé. Nous y reviendrons avec le secrétaire général de la FSU, Benoît Teste, sera notre invité. Des milliers de Tunisiens ont manifesté hier contre la politique du président Kais Saied. Les manifestants se sont rassemblés à Tunis à l'appel de la coalition des partis d'opposition. Le mouvement de contestation se poursuit en Iran 1 mois après la mort de Mahsa Amini, 3 jours après son arrestation pour un voile jugé mal porté. Le 61e anniversaire demain du massacre du 17 octobre 1961, le massacre de centaines d'Algériens en plein Paris. Ce sera cet après-midi à Paris, une marche contre la vie chère et l'inaction climatique, une action à l'appel de la NUP. Cela fait aujourd'hui 2 ans, l'assassinat de Samuel Paty. Le 16 octobre 2020, ce professeur d'histoire-géographie était décapité par un jeune tchétchène radicalisé de 18 ans à la sortie du collège dans lequel Samuel Paty enseignait à Conflans-Sainte-Honorine. Le ministre de l'Éducation nationale a participé hier à une cérémonie à la Sorbonne consacrée au professeur assassiné pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. 2 ans après ce drame, entretien avec le secrétaire général de la FSU, Benoît Teste.
Nous n'oublions pas et il ne faut pas oublier, il faut commémorer au sens où il faut se souvenir qu'un professeur est mort pour avoir fait son métier finalement et en lien avec des forces obscurantistes qui veulent faire taire le savoir, la transmission et que je crois qu'on est tous ensemble à vouloir combattre. Donc nous, notre message, c'est effectivement qu'il faut se souvenir pour avancer et pour que ça ne se reproduise pas. Il y a eu des choses qui ont été faites depuis, sur la protection des personnels notamment, mais peut-être sont-elles encore à approfondir. Et puis, il y a tout un travail, évidemment, il est fait au quotidien, d'information, d'éducation, de citoyenneté, d'explication. Je crois que ce travail-là, il faut le continuer. Donc il y a ce message-là. Et évidemment, ce qui nous inquiète aussi dans la période, c'est la récupération par l'extrême droite de cette commémoration. On voit qu'il y a des surenchères qui sont faites autour de l'idée qu'il y aurait une menace généralisée, non pas des forces obscurantistes dont je parlais, mais de l'islam en tant que tel. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce que justement, comme on l'avait dit au moment de la mort de Samuel Paty, ce dont on a besoin, c'est au contraire de cohésion. Et on a besoin de tout le monde, y compris des musulmans, dans cette lutte contre l'obscurantisme. Et donc c'est aussi ce message qu'on veut rappeler. Et ça n'est pas le message que porte l'extrême droite. Et pour le coup, on est assez inquiet de la manière dont ça peut tourner. Mais on a évidemment à faire, nous, tout un travail en ce sens, quoi, hein, d'information, d'éclairage, de conscientisation, de citoyenneté et de cohésion nationale.
Voilà. Et vous constatez que la très grande majorité des musulmans répondent présents face à cela?
Bien sûr, ça c'est un constat qui rassure et qui fait chaud au cœur parce qu'on voit que nous partageons le même combat et que évidemment qu'il y a une compatibilité, comme on dit, entre l'islam et les valeurs de la République. Et tout ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut continuer à dire, continuer à travailler. On le constate au quotidien, effectivement, dans nos classes. Il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a pas de montée généralisée d'opposition à la laïcité. Il y a toujours à reprendre ce débat, ce travail en bonne intelligence pour vivre ensemble tout simplement. Et effectivement, c'est un combat qu'on doit faire partager à toute la population.
Et l'ensemble des fédérations musulmanes avait bien entendu rendu hommage à Samuel Paty.
Et on l'avait noté avec plaisir parce qu'en plus, les courriers qui avaient été envoyés étaient dans un ton particulièrement juste, je crois. Hein. C'était des messages à la fois de solidarité avec la profession enseignante qui sont toujours nécessaires. et puis des appels à la cohésion nationale. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler et à creuser.
Dans ce contexte, le ministère de l'Éducation nationale a récemment recensé 313 signalements en septembre pour des atteintes à la laïcité dans les écoles, collèges et lycées, avec une hausse des incidents notamment liés au port de tenues religieuses. Comment accueillez-vous cela ?
C'est vrai que c'est une question complexe, hein, qu'on essaie de manier avec grande prudence et avec beaucoup d'équilibre. C'est une question qui divise souvent les professions sur ce qu'il faut accepter ou pas, sur la manière dont on accepte ou pas, etc. Nous, on essaie d'avoir une position très équilibrée sur ce sujet et on est souvent très critique vis-à-vis du ministère, mais on trouve que, pour le coup, la réaction de Pape Ndiaye est la bonne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voiler la face sur l'existence d'une idéologie religieuse intégriste qui essaie d'occuper certains espaces. Et donc, il y a incontestablement une forme d'offensive idéologique de certains milieux. Donc on constate une recrudescence de certains signes ostensibles dans les classes. Donc ça, c'est un fait. C'est pas un phénomène qui submerge non plus l'éducation nationale. Il faut pas exagérer les choses à chaque fois. Il faut rester proportionné parce que c'est la réalité, hein. À cette rentrée, l'éducation nationale, l'école n'est pas submergée. Mais il y a une recrudescence incontestable sous la forme, effectivement, plutôt des abayas, des jupes longues, etc., qui sont pas tout à fait d'ailleurs la même chose que les voiles ou encore d'autres signes religieux. Donc là aussi, il faut regarder au cas par cas ce que ça signifie. C'est aussi une manière d'affirmer l'identité. On comprend tout à fait, hein, à l'adolescence ou quand on partage certaines valeurs et pourquoi pas finalement. Hein, il y a aussi la vie en société. Il y a aussi des gens qui ont des options religieuses qui peuvent être ce qu'elles sont. Donc, c'est pas en soi des phénomènes graves. Il y a quand même à l'école à respecter cet équilibre qui est de dire on n'a pas de signes religieux ostensibles. On essaye de pas ostensiblement manifester son appartenance religieuse, mais tout ça se fait effectivement dans l'équilibre et en disant bien c'est pas une submersion, il n'y a pas une augmentation démesurée de ces phénomènes. Et deuxièmement, ces phénomènes se traitent pas en disant on va exclure, on va systématiquement virer des écoles tout ce qui peut ressembler à un signe religieux. Ce qu'on fait, c'est du dialogue, c'est si une élève ne souhaite pas enlever un signe religieux, eh bien on voit avec elle pourquoi, on voit avec elle est-ce qu'il peut pas y avoir des aménagements à sa tenue, et puis on discute du pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui se passe exactement, de qu'est-ce qu'elle met derrière effectivement. Oui, je dis elle d'ailleurs parce que c'est souvent les filles, mais en réalité, à cette rentrée, il y a aussi beaucoup de garçons, hein, qui portent la djellaba, par exemple. Donc, voilà, on est dans le dialogue, on essaie de voir au cas par cas aussi qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être aménagé. C'est toujours un équilibre précaire, hein, j'en conviens, parce que on est toujours un peu sur le fil et faut pas non plus laisser se développer des vêtements religieux qui serait une manière d'identifier chaque communauté dans chaque école et qui au final serait pas bonne pour l'ambiance générale. Donc faut pas laisser se développer ces phénomènes-là, mais il faut les traiter avec intelligence et sans stigmatisation.
Le secrétaire général de la FSU, le syndicat enseignant, Benoît Teste. Des milliers de Tunisiens ont manifesté contre la vie chère et contre la politique du président Kais Saied. Hier, les manifestants se sont rassemblés à Tunis à l'appel de la coalition des partis d'opposition. Ils accusent le président de la République d'être responsable des pénuries et de la forte inflation, inflation qui a atteint près de 9% sur un an. Hier soir, le Fonds monétaire international a affirmé être parvenu à un accord avec le gouvernement tunisien permettant le déblocage d'un prêt de 1,9 milliard de dollars. Cet accord doit encore être validé par le conseil d'administration du FMI. Et en échange de ce versement, le gouvernement tunisien s'est engagé sur un programme de réforme. Le mouvement de contestation se poursuit en Iran un mois après la mort de Mahsa Amini, trois jours après son arrestation pour un voile jugé mal porté. Cette jeune kurde iranienne de 22 ans est décédée le 16 septembre dernier. Des iraniennes et des iraniens sont de nouveau descendus, manifestés hier pour demander le départ du pouvoir en place. Au moins 108 personnes personnes ont été tuées dans la répression de ces rassemblements qui perdurent depuis plus de 4 semaines. Ce lourd bilan après une explosion dans une mine de charbon dans le nord-ouest de la Turquie, il y a 41 morts et 28 blessés. Les syndicats dénoncent depuis plusieurs années une exploitation effrénée dans les mines au détriment des règles de sécurité. Elle s'élancera cet après-midi à 14h depuis Nation jusqu'à la Bastille à Paris, une marche dite contre la vie chère et l'inaction climatique, une action à l'appel de la NUP. Le cortège comprendra 5 espaces de revendication, retraite à 60 ans et augmentation des salaires, allocation autonomie de 1100 euros pour les jeunes, blocage des prix, taxation des super-profits ou encore bifurcation écologique. Cette marche interviendra en plein mouvement social dans les raffineries de Total Energy et à 2 jours d'une mobilisation nationale, un mouvement de grève mardi prochain à l'initiative notamment de la CGT, Force ouvrière, Solidaire et la FSU dans de nombreux secteurs dont la SNCF et la RATP. Enfin, ce sera demain le 61e anniversaire du massacre du 17 octobre 1961. Des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression menée par la police française. Répression qui a fait entre 200 et 300 morts selon les historiens. Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi 10 à midi 30, votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 18h pour votre journal. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h sera Patrick Lejaric, l'éditorialiste à l'Humanité, publie Les raisons de la guerre en Ukraine pour une sécurité humaine globale, une émission présentée par Loïc Barrière. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Orient. Dans quelques instants, votre rendez-vous avec l'Humanité.